millions d'autres fragiles. Le matin fait noir quand elle s'en va. Devant elle, il y a des jours qui viennent. On dirait que des débuts de semaine, quand c'est novembre et qu'il fait froid. Sur l'écran de sa télé le soir, on lui balance des bouts d'espoir. Rien que du ciné, rien que du semblant. Des petites pisseuses qui chantent leur tube, des top modèles qui font leur pub, ce qui fait rêver les pauvres gens. C'est Nanou qu'on appelle, je crois. Faudrait que sa vie soit belle, voilà. C'est une petite fille un peu perdue, la tendresse, ça court pas les rues, qui a comme un nuage bleu sur le cœur, qui a comme une vague envie d'amour, qui aurait bien le droit de frôler un jour quelque chose qui ressemble au bonheur. C'est une petite fille qui a les yeux doux, qui rit souvent, tout le monde s'en fout, petit sac, petite robe, tout petit lendemain. Moi je dis que s'il existe un bon Dieu, il pourrait se remuer un peu, juste un geste, ça lui coûterait rien. C'est Nanou qu'on l'appelle, je crois, faudrait que sa vie soit belle, voilà.
Elle navigue entre deux eaux, mamie. Elle est belle comme un cours d'eau dans son lit. La mer la regarde avec les yeux d'un homme. Le sang et l'eau salée, c'est tout comme un prénom de bateau, une bouteille à la mer. Tiens, prends en photo la grand-mère. Ça fait plus joli dans le décor. Et l'écriture, c'est la parole des morts.
Et l'écriture, c'est la parole des morts.
Les poissons sont sympas à dessiner. Les enfants les aiment, ils n'ont pas de nez. Jette petit l'encre sur ma feuille. Trace en bleu tes signes de deuil. Carré blanc sur fond blanc, sacré Malevitch. Pour un tableau, faut être riche. Toi, tu peux pointer à l'aurore. Parce que l'écriture, c'est la parole des morts.
Parce que l'écriture, c'est la parole des morts.
Les mots s'enfuient de la bouche comme des sauvages. Dès qu'ils tombent, ils se mettent à la page. S'ils rebondissent, on les cloue d'une rature. Au pire, on les gomme comme la merde d'une chaussure. Nage, petit frère, sur le trottoir. Tu coules quand y a plus rien à boire. Tu veux oublier le calligramme de son corps.
Parce que l'écriture, c'est la parole des morts.
Parce que l'écriture, c'est la parole des morts. Gagner un mensonge de liberté, je mets quelques mots de côté. Qu'ils s'envolent par petites brises jusqu'à vos oreilles bien assises. Arrête, mamie, de regarder la mer. Bête à mourir sur la terre. Allez, séant, quitte cet océan. Écoute ma chanson, parole de vivant.
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 Écoute ma chanson.
Radio Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération Anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération Anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
La musique.
Carabanana maximum.
Ta gueule,
ta gueule. Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour d'Alaka.
Vive mon
grand
Léon.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, curieuses, hors normes, non commerciales, bizarres. Vous choisissez le terme qui vous convient. Aujourd'hui, nous recevons le label Syrinx et le duo Quid. Aurélien Bonvoisin, Jeanne Goris, Juliette Cédès et Paul Gutmann. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Alors, si vous voulez bien, on va parler d'abord du label Syrinx Musique. On parlera de votre duo Axo, dont on vient d'écouter un morceau en début d'émission un peu plus tard, Aurélien et Jeanne, et puis on parlera encore après du duo Quid. Alors, peut-être pour commencer, Aurélien, tu es déjà venu dans l'émission à propos du festival Sulfur.
Oui, tout à fait.
Alors, mais peux-tu nous rappeler, du coup, quelles sont tes activités artistiques en dehors de la création du label dont on va parler?
Alors, j'ai plusieurs casquettes, mais je travaille principalement donc, dans les musiques électroniques et les musiques expérimentales. Mmh. J'ai en solo un projet plutôt DJ. Où je joue des musiques électroniques un peu de tous bords, mais qui viennent plutôt du Royaume-Uni et puis de tout un tas de courants qui sont affiliés. Et puis j'ai toujours eu cet intérêt pour les musiques expérimentales. J'ai commencé à composer.
Ah oui.
Donc pour l'instant, il n'y a rien de sorti, mais il y a des choses qui viendront sur Syrinx dans les prochains mois ou les prochaines années. Je n'ai pas encore de temporalité précise. J'ai plusieurs collectifs en fait avec dans la musique électronique, 66 Sound, The Bass Society, avec lesquels on organise des événements et des émissions de radio autour de ces différentes esthétiques qu'on défend, qui sont pas les esthétiques majoritaires sur les scènes que ce soit franciliennes ou françaises en général. Et voilà, différentes scènes qu'on cherche à connecter et à mettre ensemble, à fédérer et à défendre.
Ah oui, alors c'est marrant que tu parles de composition, mais tu n'as pas de formation classique, tout ça, de musicien?
Non, j'ai eu une formation de quelques années pendant mon adolescence de pianiste, et que j'ai plutôt cherché à déconstruire après, en fait, quand je me suis mis aux musiques électroniques, et justement le fait de devenir DJ, pour moi c'était une manière de casser un petit peu les codes que j'avais appris, de faire les choses différemment. Donc j'ai une formation, mais elle est un petit peu lointaine.
Ouais.
Ça a forcément formé mon oreille, mais c'est plus tellement quelque chose, à mon avis, qu'on retrouve aujourd'hui dans la musique.
Non, on va s'en rendre compte. Jeanne, quant à toi, tu es contrebassiste.
Absolument.
Alors, j'imagine pour le coup que tu as une formation musicale plus
classique,
académique, on va dire.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Oui, moi j'ai une formation classique à la contrebasse. Après, c'est pas mon premier instrument dans le sens où j'ai commencé la musique enfant, mais par du chant en chœur. Donc pour le coup, très très classique. Je fais partie d'une maîtrise, voilà, là on peut pas plus classique et réglé comme du papier à musique. Enfin, après, je pratique encore le chant en chœur, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais j'ai appris la contrebasse, j'ai commencé en fait il y a une dizaine d'années, donc déjà à l'âge adulte, jeune mais adulte.
Ah oui, d'accord.
Et par une formation classique, ouais, en cours particulier, et puis au conservatoire d'Aubervilliers.
Ah ok, ouais.
Voilà, et j'ai commencé tout de suite l'improvisation en fait, directement.
Ben oui, alors
en parallèle de la formation classique.
Et qu'est-ce qui t'a mené vers ces musiques bizarres, on va dire?
Ouais, c'est une bonne question. La rencontre avec les musiques électroniques, déjà, par Aurélien. Voilà, et puis ma professeure de contrebasse, Félicie Basler, qui m'a appris à improviser et à ouvrir aussi mes oreilles à d'autres choses.
Ah bah Félicie, on la salue, on l'embrasse.
Oui, voilà.
Ah oui,
absolument. Et donc c'est comme ça, voilà. Donc j'ai commencé à Félicie m'a appris à improviser tout de suite, et ça me permettait aussi d'avoir un rapport plus direct à l'instrument, parce que en commençant un instrument par la méthode classique, alors ça apprend un tas de choses, mais ça peut être un peu frustrant, surtout pour une adulte, de passer par des études, des méthodes. Enfin, c'était bien que je puisse jouer aussi ce que je savais faire et commencer à maîtriser, à avoir un rapport direct. Mmh. Donc je continue, je fais des concerts d'impro, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis je joue aussi dans Axo avec Aurélien, à l'électronique. J'aime bien jouer avec l'électronique aussi.
Bah, on va y revenir plus tard, mais
ouais.
Maintenant, on va parler du label Syrinx. Peut-être, qu'est-ce qui, Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a incité à créer le label, tout simplement? Et puis, alors peut-être aussi dire comment ça s'est fait. Mm-hmm. Vous n'êtes pas que tous les deux, je crois.
Oui, on est trois, donc on est nous deux, le duo Axo et Paul Noisis. On est les trois têtes pensantes et gérantes du label. Mm-hmm. Et alors, la manière dont ça s'est fait, c'était assez spontané, en fait. On traînait avec Paul souvent dans les mêmes concerts, etc. On était un petit peu dans les mêmes scènes, donc on se retrouvait pas mal dans des festivals, dans des soirées, etc. On s'est croisés à pas mal de reprises. Et puis, il y a eu un moment, il y a quelques années, où on a pris, en fait, un verre à trois, et on a discuté. Je pense qu'on est venu avec un peu les mêmes idées, mais sans savoir précisément ce qu'on allait en faire, mais avec l'idée de, bon, en fait, on a des artistes autour de nous, qui sont des amis ou non, qui font des musiques singulière, je pense que le mot s'y prête. Ouais. Ce sont des artistes auxquels on croit vraiment, mais il n'y a pas tellement de plateformes qui réuniraient toutes ces musiques, et puis elles sont peut-être un petit peu trop en marge de leur propre genre pour être sorties sur des... Donc on s'est... Et puis en fait, voilà, on a discuté pendant la soirée, et puis on s'est dit, mais en fait, on connaît telle personne qui pourrait presser des vinyles, telle personne, etc. Et sans vraiment le dire, voilà, l'idée de former un label est apparue là. Et en fait, je pense qu'on est rentré chez nous ce soir-là en se disant, en fait, je crois qu'on a fondé un label ce soir. Ah
oui.
Et tous les trois de notre côté. Et puis voilà, on en a discuté, on a structuré les choses. Et de là, on a fait une première compilation qui s'appelait Pilote.
Ah oui.
Et ça nous a plu, donc on a décidé de continuer ensuite à défendre, avec cette idée de défendre une esthétique qu'on définit, on dit entre le club et le laboratoire, parce que c'est une manière de dire, bon, il y a un pied dans les musiques électroniques, mais toutes les musiques électroniques, sous toutes leurs formes, et avec toujours une dimension, le laboratoire, parce qu'on cherche à défendre cette esthétique vraiment, qu'elle soit expérimentale, qu'elle soit à part, mais une approche différente, en fait, de ces musiques.
Ouais. Alors justement, j'avais ma question après, c'était sur les esthétiques que vous défendez. Et c'est vrai que j'ai un peu de mal, parce que je ne connais pas le milieu des musiques électroniques telles que celles du DJ, ou tu vois, dans les soirées, tout ça. Et j'avais un peu de mal à voir ce que tu expliques, là, le fait qu'elles soient en marge.
Mm-hmm.
Ouais. Et justement, je voulais que tu précises, que vous précisiez parce que toi, tu vois, par exemple, Jeanne, tu joues de la contrebasse, mm-hmm. ça, c'est pas forcément le même. Puis la musique improvisée, je vois pas trop où ça se rejoint avec les mm-hmm. musiques de club, on va dire. Je sais pas.
L'idée, c'est que la musique électronique, c'est très large en termes de définition.
Bah, oui.
C'est toute musique qui utilise de l'électronique.
Voilà.
Donc, c'est vrai que la musique dominante en termes de musique électronique, en termes d'écoute, c'est la musique de club. Ouais. Mais dans cette musique de club, il y a des tendances très représentées, notamment à Paris. Que j'apprécie énormément, hein,
ouais.
mais qui ont déjà beaucoup de plateformes. Et puis, il y a des musiques de marge, soit parce qu'elles utilisent des rythmes beaucoup plus étranges, soit parce qu'elles tentent de prendre des contre-pieds artistiques, ou alors parce qu'elles se destinent complètement à l'écoute à la maison, en fait, ou au casque, ou alors en journée, ou beaucoup plus tard dans une soirée, ou dans un contexte qui n'est pas propice à faire danser les gens. Donc, c'est une musique qui est électronique par son instrumentation et par... son origine, sa filiation, mais qui a pas forcément les mêmes objectifs, qui a pas forcément les mêmes racines, qui va chercher aussi dans d'autres choses. Et justement, le fait de mélanger avec d'autres instruments, organiser ce croisement avec d'autres sources sonores, avec d'autres façons de faire, c'est aussi une façon de réfléchir aux marges, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire de la musique électronique autrement. C'est pas quelque chose de neuf du tout, hein, même dans les musiques de club, d'utiliser des instruments acoustiques organiques, mais voilà, c'est réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire autrement et comment est-ce qu'on défend tout ça. Donc je pense que la cohérence, en fait, elle vient de cette approche et de cette esthétique un petit peu plus large. Et donc c'est vrai que quand on écoute les sorties Syrinx, je crois qu'on peut être étonné parce qu'il y a des choses assez différentes,
oui.
Mais c'est vraiment le parti pris qu'on a.
Ouais.
C'est de dire, en fin de compte, si on écoute l'ensemble des propositions, ce sont des propositions et ce sont des choses qui se rejoignent dans cette idée de proposer quelque chose qui est un petit peu décalé par rapport aux normes, un petit peu déviant à sa manière.
Et du coup, le label est-il identifié dans le milieu des musiques électroniques comme tel, ou Moi, ce que je me demandais, c'est est-ce que vous avez une ligne claire ? Est-ce qu'il y a des gens qui s'adressent à vous en disant bah voilà, c'est eux qui font tel type de choses ?
Mm-hmm. Oui, de plus en plus. Alors, on est un label qui n'est pas naissant, parce qu'on existe déjà depuis plusieurs années. Hein, mais
oui, ça remonte à quand, précisément ?
2020. Alors, oui, 2020, c'est la création. La première sortie, c'est 2021. Ouais.
La première sortie, c'est 2020. Ouais. Et puis, en fait, on l'avait appelé pilote parce que c'était un petit peu comme le pilote d'une série. C'était vraiment l'idée de. On se lance, on a tendance à être très touche à tout et à tenir à l'idée du do it yourself, quelque chose de très punk. Donc, l'idée de. On se lance, on essaye et on voit comment ça marche. Ouais. Et puis après, le temps de tout structurer, c'est vraiment l'an dernier qu'on a commencé à sortir des sorties beaucoup plus régulièrement. Et donc oui, on est de plus en plus identifiés. Moi, j'ai régulièrement des producteurs. Alors moi, vu ma casquette de DJ, c'est plutôt des gens qui sont dans les musiques de club, mais qui viennent me dire, bah en fait, j'ai ces morceaux qui sont un petit peu bizarres, donc je vais pas forcément pouvoir les sortir.
Ah, c'est bien.
Voilà. Est-ce que toi, tu les jouerais, ou alors est-ce que tu les sortirais ? Et c'était notamment un petit peu le processus derrière la première sortie, dont la première sortie numérique de Damien Concrète et Manon Alla, dont on pourra reparler après. Mmh. Mais c'était un petit peu l'idée, justement.
Ouais. Alors, j'aimerais bien revenir sur le pilote. Moi, je connais des labels qui font des various artistes plutôt après avoir sorti plein de... Tu vois, notamment, il y a un label slovaque qui sort chaque année une compilation de tous les artistes qu'ils ont sortis dans l'année, tu vois. Et vous avez fait le choix inverse, c'est-à-dire de commencer par une compilation, quoi.
Ouais.
Et pour quelle raison ?
Ouais, parce que c'était une façon de... Justement, on avait bien conscience aussi que la ligne qu'on défendait n'était pas forcément facile à comprendre. Mmh. Et donc, la compilation, c'était un moyen de montrer l'étendue aussi de ce qu'on voulait défendre comme musique. Alors, ça ne s'arrête pas non plus aux artistes de la compilation, de ce qui est présenté dedans, hein, ce qu'on peut sortir. Mais c'était pour ça. Et puis aussi, l'idée de réunir un collectif, parce qu'on voulait aussi à se rassembler d'autres artistes autour de nous. Et parce qu'en fait, c'est aussi un des points fondamentaux de la raison d'exister de Syrinx, c'est de faire aussi créer une émulation autour d'une scène.
Ah oui. Ouais, bien sûr.
Et casser les frontières en réalité dans la musique
exactement.
Aussi. On trouve qu'il y a des barrières entre les styles, des frontières entre les scènes et les genres qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et c'est aussi une manière, en rassemblant tout ça sur une compilation, de montrer qu'en réalité ça peut faire sens tous ensemble, parce que je pense que même s'il y a des choses très différentes sur nos compilations et sur notre label en général, il y a un vrai sens et une vraie cohérence derrière. Il y a souvent un sens de la narration que je retrouve dans nos sorties, une façon alternative mais de raconter des histoires, de travailler sur les évolutions, etc. Et donc c'est aussi comme ça qu'on cherchait à le montrer.
Je propose qu'on écoute ce dont tu parlais, Damien Concrète et Manon Alla, et puis on en parle après.
Dans tous les pontons des arbres fruitiers, sa moue et sa voix rendue plus tendre. La glycine au mât de l'épicéa veille, branches avachies, à ses entrées sorties, dérogatoires.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et on parle du label Syrinx. Alors, Aurélien, peux-tu nous présenter ce qu'on vient d'écouter, à savoir Damien Concrète et Manon Alla?
Oui, alors, du coup, Damien Concrète et Manon Alla, c'est deux activistes, eux, qui viennent de la scène toulousaine. Donc, Manon Alla, qui est poète, et Damien Concrète, qui est lui... Alors, il est dans plusieurs projets. Il a un duo qui s'appelle Sons of Achab, qui est plutôt une sorte de mélange d'électronique et de post-rock. Il gère un label qui s'appelle Parmenides Records. Ils ont aussi des émissions de radio. Et donc, c'était notre première sortie numérique. C'est-à-dire qu'elle est disponible sur Internet, sur Bandcamp notamment, qu'on a sorti l'année dernière. Donc, on a commencé en fait par deux compilations qu'on a sorties en vinyle. On a aussi sorti un mini-album l'an dernier. Et puis, on s'est dit que le format EP, ça nous permettait de faire des sorties plus régulièrement en laissant la parole en fait à des artistes et à des projets dans lesquels on croit. Et donc là, en l'occurrence, c'est vraiment la rencontre de deux univers qui sont pas forcément, qui semblent pas forcément compatibles au premier abord. Et ouais. Qui finalement, quand on écoute l'EP, se croisent parfaitement. Damien Concrète, qui a produit quatre titres, alors qui rentrent dans ce qu'on appelle breakbeat, donc c'est de la musique électronique, plutôt de club pour le coup, si ouais. Très saccadé, très coupé, avec pas mal d'énergie. Il y a plusieurs tracks, plusieurs morceaux sur l'EP qui sont à des tempos assez élevés. C'est des choses qu'on peut tout à fait jouer en club. Mais là, on a Manon Alla qui vient déclamer des textes au-dessus des quatre morceaux de l'EP. Et ils ont vraiment travaillé en fait, ce croisement des deux. Comment est-ce qu'on peut faire s'intersecter une musique qui est essentiellement ancrée dans le club et quelque chose qui est plutôt dans la poésie contemporaine, qui aborde des thèmes... alors Manon Alla parle de poésie extime. Donc c'est une manière de travailler sur l'intimité, oui. Le corps, etc., les sensations... et c'est quelque chose qu'on sent vraiment, je trouve, dans l'EP. Et donc, c'était notre premier EP numérique, et je pense que c'était une belle manière de montrer, voilà, on a un croisement de plusieurs esthétiques, de plusieurs univers différents, et finalement, quelque chose qui prend complètement sens, et qui, voilà, on a quatre titres qui défendent une esthétique vraiment singulière et à part.
Bon, bah, super. Et peut-être on peut parler de cette série de EP digitaux, ouais. Initiés avec Damien Concrète et Manon Alla. Pourquoi ce format court, en fait?
Ça permet la diversité aussi. Le format court, ça permet aussi aux artistes de produire quelque chose rapidement. Ah ouais. Ça permet aussi de ne pas mettre trop de pression, parce qu'un album, c'est aussi assez long à réaliser. Généralement, ce sont aussi pour des artistes qui ont déjà sorti d'autres choses avant, qui ont déjà une pratique, si c'est pour un duo, qui ont déjà une pratique ensemble depuis un moment. C'est plus une réalisation. Donc là, nous, on a aussi beaucoup de... d'artistes qui sortent leur première sortie sur Syrinx Music. Justement parce que c'est une plateforme qui permet ce genre de choses, parce que ce sont aussi des artistes qui font des musiques qui n'ont pas vraiment de terrain aussi pour être publiées. Ça fait partie, oui, de la vocation de Syrinx aussi. Voilà, donc c'est pour ça. L'EP, ça permet de sortir avec un peu moins de pression, je pense. Ouais. Et puis,
c'est plus encourageant pour l'auditeur aussi, je pense, parce que c'est des formats plus courts. Quand on voit que la sortie fait 3, 4, 5 titres, c'est qu'on sort des artistes qui sont, pour le coup, très confidentiels, qui sont souvent à leur première ou leur deuxième sortie, et qui vont en plus, pour certains, publier leurs morceaux plus étranges ou un peu plus singulier. Et donc, c'est vrai qu'un format court, c'est aussi plus engageant. On a plus envie de se dire, je vais écouter, puis je suis accroché par le premier titre. Je vais écouter les 15 ou les 20 minutes, en fait.
Mais après, l'idée, c'est de faire des albums aussi.
Oui.
Ah, voilà. Ouais. Parce que je voulais vous interroger aussi sur ce que vous envisagez au niveau des formats. Donc, si je comprends bien, les deux premières sorties qui étaient des compilations sont sorties en vinyle.
Oui.
Et est-ce que vous sortez des CD, par exemple ? Non.
Non, mais c'est quelque chose qu'on a envisagé.
Ah, okay.
On est très libre sur la question des formats. Ah. On a fait les deux premières compilations en vinyle parce que ça nous semblait faire sens. C'était aussi l'occasion justement de montrer cette dimension de collectif, comme on l'a dit tout à l'heure. Si on regarde le deuxième vinyle, par exemple, on retrouve dedans des artistes qui font partie de mon collectif 66 Sound, donc plutôt du côté DJ, mais qui sortent là des morceaux un peu plus étranges. Le format vinyle nous semblait propice, avec l'idée de, il y a 6 artistes, on prend 3 artistes par face et on fait 2 faces très complémentaires, assez différentes, donc le format vinyle s'y prêtait bien. On a fait une cassette l'an dernier pour un mini-album d'une artiste qui s'appelle Namsha, parce que là aussi le format cassette se prêtait bien à sa musique qui est dans une esthétique très live, très, très punk pour le coup, et donc la cassette s'y prêtait bien. Et là, faire des albums, c'est quelque chose qu'on envisage, sur le quoi on travaille, on pourra en reparler plus tard pour Axo. Et donc, le format CD, c'est un des formats qui pourrait s'y prêter.
Ah oui, d'accord.
Et pour tout dire, les vinyles et tout ça, sur les formats, nous, on pensait même au départ les distribuer aléatoirement. C'était vraiment aussi l'idée d'avoir un objet, un peu une carte de visite aussi. Ouais. On fait des micro-tirages, en fait. On pensait même les faire gagner à des gens qui achetaient l'EP numériquement et l'envoyer comme ça.
Ah oui, d'accord.
Aléatoirement. Bon, finalement, on n'a pas gardé ça, on avait pensé. Mais c'était une des idées pour donner un peu une idée de ce que ça représente aussi pour nous. Ouais.
Et alors, les sorties numériques, c'est uniquement sur votre Bandcamp ou il y a d'autres plateformes genre Spotify, je dis n'importe quoi
Alors, jusqu'à présent, c'est exclusivement sur Bandcamp, mais ça arrive très prochainement sur toutes les plateformes. On est en train de finaliser la mise en place d'une distribution numérique et donc d'ici quelques jours, en réalité, on va avoir les premières sorties qui vont arriver et puis progressivement, on va mettre toutes nos anciennes sorties sur toutes les plateformes. À l'origine, c'est vrai qu'on avait cette démarche de dire... Bandcamp, c'est une plateforme plus engagée pour des questions à la fois esthétiques, politiques, etc. On s'était dit qu'on partait sur Bandcamp. Et aujourd'hui, on a aussi envie de voir notre musique beaucoup plus diffusée.
Oui.
Enfin, beaucoup plus. Tout reste, comment dire...
Non, mais pour les artistes, c'est relatif, intéressant de pouvoir diffuser plus facilement leur musique.
Voilà,
après, faut pas compter gagner des sous avec...
C'est pas le but. Non.
Mais pragmatiquement, ça rend notre musique plus accessible.
Aussi aux gens qui sont moins musiciens, qui n'ont pas l'habitude d'aller sur Bandcamp aussi.
Notre idée, c'est vraiment pas de faire un label élitiste.
Obscur,
qui reste dans son coin. C'est de montrer que justement ces musiques en réalité peuvent être écoutées par des gens qui ne sont pas forcément habitués à les écouter.
Ah bah, je suis entièrement d'accord avec ça. Elles peuvent être écoutées à 15h30 de l'après-midi par les gens en voiture, les anarchistes qui écoutent notre émission.
Absolument.
Et c'est, moi, ça me tient à cœur. Ça. Alors peut-être on va écouter un morceau, Fever Model, mais peut-être. Comme vous êtes encore un peu au début du label, on peut se permettre de citer un peu toutes les références qu'il y a. Ouais. Est-ce que quelles sont les autres références du label en terminant peut-être par Favor Model qu'on va écouter?
Ouais, tout à fait. Alors donc j'ai déjà cité nos deux compilations vinyles et le mini album de Namsha. Et donc ensuite on est rentré dans une série d'EP numériques. Donc on a commencé par le Damien Concrète et Manon Alla dont on a parlé un peu plus tôt. On avait un EP de Future Stress. Alors je crois qu'on en écoutera un EP plus tard. Future Stress, c'est un autre activiste cette fois-ci des scènes franciliennes. Il est à la tête d'un label qui s'appelle Abri, qui est un label vraiment incroyable que je conseille à tout le monde, sur lequel on trouve énormément d'esthétiques différentes, ouais. Mais c'est vraiment un superbe projet. Donc lui, son projet principal s'appelle Delight, et là il a lancé Future Stress, un nouveau pseudonyme, et c'est un très bel EP que je suis très heureux d'avoir sorti, qui pour moi, alors c'est ma façon de le décrire, mais je crois qu'il ne serait, on en a déjà parlé, il était c'est pas forcément comme ça qu'il l'a conçu. Pour moi, c'était une façon de prendre certaines musiques de club et presque d'enlever toutes les percussions, sauf en fait de laisser une sorte de squelette. Et donc, il reste une sorte de vapeur sonore, en fait, une sorte de brume comme ça, très mélancolique, très lancinante, en fait, qui se propage. Donc, c'est un très bel EP et vraiment très original.
On l'écoutera en fin d'émission.
Tout à fait. Ouais. Ensuite, alors, on a eu Feather Model, je vais en reparler un peu. Après, et un EP de Ya. Ya, qui est le nouveau projet de deux jeunes compositrices, Aline Goris et Yusra Keshai, qui viennent du monde de la musique plutôt électro-acoustique.
Ah oui.
Voilà. Et qui, là, ont proposé quelque chose qui puise aussi dans les musiques électroniques expérimentales, mais du côté non académique, qui ont proposé quelque chose de très singulier avec des sources sonores, de l'utilisation de voix, d'instruments à vent, etc., où tout se rencontre. Mais dans une, je trouve à l'écoute, en fait, que c'est, ce que je disais tout à l'heure, le sens de la narration. Ça raconte vraiment une histoire, en fait. Ces différentes sources, elles se rencontrent, elles se croisent, et on a à la fin quelque chose qui est vraiment, qui est pas quelque chose de complètement perché pour quelques élitistes perdus dans leur coin. C'est quelque chose qui s'écoute bien. Vraiment. Et donc, juste avant, on avait Feather Model, qu'on a sorti en début d'année, qui est un duo, de deux artistes, Penrose et Ewan Monk. Et alors là, on est dans un univers plutôt presque jazz. Jazz avec des influences dans le hip-hop instrumental au niveau des rythmiques, mais l'utilisation de synthétiseurs analogiques, et Ewan Monk, il a aussi un pied dans le DJing, donc on a toutes ces sources qui se croisent, qui font quelque chose de beaucoup plus accessible pour le coup, et en même temps on verra un petit peu, c'est pas vraiment du jazz, c'est pas vraiment du hip-hop, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais ça marche.
Eh ben, très bien, on écoute Favor Model.
Flow.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste 89.4 à Paris et partout ailleurs. Radio-libertaire.net, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et on continue de parler du label Syrinx avec Jeanne et Aurélien. Et on va parler des concerts, si vous voulez bien. Quelle est votre programmation, tout simplement? J'imagine que vous ne vous contentez pas des artistes de votre label.
Alors, on essaie de donner la priorité aux artistes du label quand même, parce que c'est un peu l'idée aussi, de proposer des scènes. Encore une fois, parfois, ce sont des projets neufs aussi qu'on sort, donc ça peut être aussi les premières scènes sous cette configuration-là. On a proposé des événements dans différents contextes. Pour l'instant, on n'a pas d'endroit où on retourne régulièrement, particulièrement. C'est vrai que sur les événements, c'est un peu comme ça s'est présenté aussi. On a organisé des événements aux chambres à Aubervilliers, où là, on faisait appel aussi à un collectif de lumière qui s'appelle L'Axe, pour faire toute une installation sonore. Et l'idée, c'est que ça soit aussi, parce que ce soit un concert, mais que ce soit aussi visuel, parce qu'il y a aussi beaucoup de liens avec les arts visuels dans le label aussi. Notamment Noisis, le cofondateur, utilise beaucoup ça aussi. Il a un projet danse noétique qui fait appel aussi à des visuels et puis un danseur. Penrose aussi qui fait un live avec Alexandra Radulescu, qui est aussi une artiste visuelle qui fait des visuels en 3D. On a fait aussi des événements au Jardin Villemain avec l'association La Chaise Musicale qui organise les pauses électroniques. Il y a un événement ce soir aussi au Cirque Électrique.
On va en reparler après.
Voilà, donc on en reparlera plus tard.
Et oui, donc vous n'avez pas un lieu fixe, c'est ça que je voulais savoir aussi.
Non, voilà, c'est ça, on n'a pas de résidence pour les concerts. Après, on avait organisé aussi une release party pour le P2IA, mais c'est aussi en fonction de ce que les artistes proposent, ce dont ils ont envie, voilà.
On travaille aussi dans des lieux un peu décalés, justement, qui ne sont pas forcément estampillés pour ces styles de musique. Je pense notamment au Jardin Villemain. Alors, Jardin Villemain qui est face au canal Saint-Martin.
Entre la gare de l'Est et le canal.
Voilà, avec un kiosque qui a une vue sur le canal. Et donc, on avait fait un plateau justement dans le kiosque. Et donc, c'était assez surprenant pour les personnes qui étaient là pour passer un dimanche après-midi, finalement. Mais ça avait très bien marché. C'était une occasion de dire sur des formats courts. Voilà, on vous présente ces musiques dans un autre contexte et toujours on montre aussi que ces musiques expérimentales, ces musiques électroniques, elles n'existent pas que dans un club ou dans un musée. Non, elles peuvent exister partout. Ouais. Elles peuvent s'adapter à ces lieux.
Parce que moi, je suis aussi engagée en médiation de la musique. Je travaille sur différents projets là-dessus aussi. Donc, dans l'idée d'amener la musique au plus grand nombre et de partager, et de faire découvrir aussi des choses que des auditeurs ne connaissent pas forcément. Donc l'idée de déplacer aussi les concerts dans des endroits insolites, c'est quelque chose que je pratique depuis plusieurs années et que j'aime bien faire, oui.
Ah bah super, ouais. Et alors pour le coup, êtes-vous attaché à la qualité technique, au confort des spectateurs? Je dis ça parce qu'on assiste souvent, très souvent, à des concerts dans des caves, dans des bistrots, dont le moins qu'on puisse dire, c'est que la qualité n'est pas optimale. Et je veux savoir ce que vous pensez de ça, en fait. Est-ce que c'est quand même important de la qualité technique ou faut profiter de tout, faut y aller partout et puis bon, on y va, quoi.
Alors je dirais que la musique qu'on propose se prête pas forcément à ce que ce soit dans le fond d'un bar avec des gens qui sont là pour manger ou boire un verre. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas fait sous ce format-là non plus. Moi personnellement, je prête pas une grande importance à la qualité technique, on va dire, des enceintes. Alors là-dessus, je pense qu'on n'est pas tous d'accord. On a des priorités différentes aussi, je pense, au sein du collectif. Mais par contre, c'est vrai, l'idée qu'il puisse y avoir une qualité d'écoute, moi, je trouve ça important pour le coup. Moi, j'apprécie pas, en tout cas, de jouer quelque part où les gens font complètement autre chose en même temps.
Oui.
Puis, en fait, je pense qu'on prête pas forcément toujours une attention à la qualité acoustique, mais par contre, on veut proposer un produit fini sur le plan artistique, de manière générale. Et donc, bien sûr que ça compte forcément.
Y a-t-il une périodicité particulière au concert, ou c'est quand...
Non, pas forcément. Ça dépend un petit peu des moments. Ça dépend de nos sorties aussi. On a cherché à faire notamment des release parties pour le P de Ya et plus récemment pour le P de Quid. Donc on a investi différents lieux à ce moment-là. Ça dépend aussi des volontés des artistes et du moment. Et puis voilà, de ce qu'on peut proposer comme plateau cohérent, pas seulement sur le plan musical, mais c'est vrai qu'on essaye aussi de travailler, voilà, comme disait Jeanne, sur les arts visuels. Il y a aussi toujours une dimension d'art numérique dans le label, et donc c'est quelque chose qu'on cherche à défendre aussi sur nos événements en chambre. Il y avait aussi une dimension interactive avec le public qui, sur certaines performances, était filmé et transformé pour être projeté dans le fond de la salle. Donc en fonction des idées, etc., quand on a quelque chose qui semble correspondre avec un lieu et un moment, on se lance dans le projet.
Ben ouais. Et alors, ce que je me demande, moi, c'est quelle est l'activité principale du label ? Quelles sont vos priorités ? Est-ce qu'il s'agit des concerts ou des sorties de disques ? Qu'est-ce qui prime avant tout ?
Non, c'est un label, donc plutôt les sorties.
Ah ouais, d'accord. Ouais.
Disons que ça va ensemble, je trouve. Ouais. On pense le tout, on pense ça comme un tout cohérent.
Mais avant tout, les sorties de disques.
Les sorties, oui.
C'est par les sorties qu'on se crée aussi une carte d'identité sonore, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est facile à retrouver sur Internet et où on se rend compte assez vite des esthétiques que l'on défend. Les concerts, par essence, c'est quelque chose qui se passe sur le moment et c'est quelque chose qui est important à mes yeux et qu'on travaille justement faire une vraie expérience qui soit pas juste un concert comme un autre, mais de se dire voilà, on passe un moment où on sent qu'il y a eu un fil qui est tissé entre les différentes performances, il y a une réflexion sur le lieu, sur le moment, mais par essence, ça reste limité aux personnes qui étaient là sur le moment.
Ça permet d'ancrer aussi des sorties, notamment numériques, dans la vie réelle.
Oui.
Donc je trouve que c'est important.
Ça
va ensemble. Ça permet de présenter aussi le travail des artistes qui, sinon, n'ont pas vraiment d'endroit où interagir avec le public.
C'est clair.
Voire de présenter différentes esthétiques des mêmes artistes. Parce que si je pense à Quid, par exemple, je pense qu'il y a aussi une différence entre ce qu'ils peuvent proposer en live, en studio. Forcément, il y a une adaptation à un format ou à un autre. Donc, c'est une manière aussi de présenter différentes facettes des artistes que l'on défend.
Eh ben, parlons-en justement de Quid. Comment avez-vous découvert Quid ? Et qu'est-ce qui vous a séduit chez eux pour que vous leur proposiez d'intégrer le label et pour que vous organisiez un concert avec eux le 10 mai dernier ?
Alors, c'est moi qui ai rencontré Quid au conservatoire d'Aubervilliers. C'est RR93. Et moi, on avait déjà été amenés en fait à travailler ensemble sur un projet de contrebasse et électronique, enfin électroacoustique, donc c'était dans la classe de MAO. Et moi, j'avais beaucoup aimé travailler avec eux individuellement, avec Paul et avec Juliette, sur des compositions différentes de chacun chacune. Et puis, quand on a sorti le label, je me souviens d'avoir parlé assez rapidement à Juliette. Et je trouvais que c'était complètement cohérent d'avoir leur musique en fait dedans. Pour moi, c'était important aussi. C'est une frange un peu différente de la musique de club justement. Et j'avais envie de les représenter. C'est comme ça qu'on y a pensé.
Eh ben, je vous propose d'écouter Quid. On écoute Monolithe
B.
B. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières. Et aujourd'hui, nous recevons plusieurs invités, le label Syrinx, qui a lui-même invité le duo Quid, avec Juliette Cédès et Paul Gutmann. Alors, Quid, pouvez-vous vous présenter, on va commencer comme ça, et nous dire de quel instrument jouez-vous, parce que c'est peut-être pas évident, après ce qu'on vient d'entendre, de déterminer de quoi vous jouez. On n'est pas des spécialistes, comme on disait tout à l'heure. Et aussi, quel a été votre apprentissage de la musique? Peut-être avez-vous des instruments classiques, Juliette?
Alors, on s'est rencontrés au conservatoire, en classe de MAO, et je pense qu'on a eu un coup de foudre amical immédiat sur le fait aussi qu'on était les deux seuls à jouer des synthétiseurs analogiques. Donc très vite, on a eu envie de jouer ensemble. Il se trouve qu'à la base, on a tous les deux fait du violon notre enfance. Mmh. Donc on a une formation classique. Et en fait, je pense qu'au début, on a longtemps joué ensemble sur en fait, diverses esthétiques avant... On n'a pas du tout commencé à faire du drone comme ce qu'on fait aujourd'hui.
Oui.
Mais entre autres, on s'est retrouvés en classe d'improvisation au conservatoire où notre prof Philippe Panier avait plutôt l'habitude d'avoir des instruments acoustiques et nous a fait faire des choses qui pour nous étaient très inhabituelles au synthétiseur, comme par exemple... de se mettre tous les deux sur un La 440 et de se désaccorder très peu pour juste faire des battements, faire des oui. choses extrêmement minimales comme ça. Et c'est là que, en fait, on a eu l'idée de commencer à faire de la musique très évolutive.
Paul, quel a été ton parcours à toi aussi? C'est ça, hein, c'est le violon également?
Oui, voilà, le violon. Ensuite, un parcours académique aussi de musique à l'université Paris 8, que je suis en train de clôturer avec une thèse de doctorat sur la spatialisation du son. Et voilà, on s'est rencontrés, comme l'a dit Juliette, au conservatoire, en classe de MAO et d'improvisation.
Et avez-vous des projets antérieurement à votre duo, j'imagine?
Ouais, moi j'ai fait pas mal de rock avant ça. J'ai joué notamment beaucoup avec une artiste qui s'appelle Trinou. Et moi je compose de la musique, j'ai composé beaucoup de musique et j'ai fait de la conception sonore pour du théâtre, en particulier pour une compagnie qui s'appelle Les Temps Blancs. Et j'ai composé pour du cinéma aussi. Voilà, donc plutôt moi je compose pour différents formats à côté.
Et toi Paul?
Et moi j'ai commencé quand j'étais plutôt adolescent, en fin d'adolescence, par le DJing, plutôt en club.
Ok.
Plutôt la frange techno. Et puis, le chemin faisant, je me suis plutôt rapproché de la composition instrumentale, composition électroacoustique. Et voilà, plus récemment, j'ai pas mal travaillé avec les arts dramatiques aussi. Et notamment, là, on vient de composer la musique d'une pièce de théâtre sur les imaginaires de la préhistoire et de la notion de copie. Une pièce sur la grotte de Lascaux de la compagnie Les Temps Blancs.
Oui. Mais alors, qu'est-ce qui vous a réuni sur quelle base, sur quelle esthétique avez-vous fondé votre duo? Qu'est-ce que vous vouliez faire en gros, qu'est-ce que vous vouliez créer comme musique?
On voulait faire plein de choses. Ouais. Je crois que ça a été un petit peu la marque de fabrique. Enfin, on a voulu tout faire en fait, de la musique dansante, de l'ambiance et du drone, etc. Et finalement, on a, je pense, passé pas mal de temps à se chercher et notamment à trouver un moyen de se donner à entendre et à donner à voir aussi. Je crois que ça fait partie aussi de notre recherche, savoir comment on présente notre musique sur scène.
Ah oui.
Ouais, c'est ça. On avait vraiment envie d'avoir un format où on était dans le jeu instrumental, malgré le fait qu'on est sur des synthés, des boutons et tout ça.
Ah oui.
Et d'avoir un live qui en soit vraiment un et pas comme on sait le faire tous les deux, d'être sur une session Ableton où on déclenche des choses, ce qui est très bien par ailleurs. Hein. C'est pas du tout du jugement, mais nous, on avait vraiment cette envie d'avoir un rapport d'improvisation aussi avec les synthés. Et c'est en ça que le drone est devenu nous est venu comme quelque chose d'assez évident, alors que c'était une musique qu'on n'écoutait pas forcément, dans laquelle on n'était pas forcément très érudit. Mais c'est à un moment où on avait une résidence tous les deux sur un projet qu'on faisait par ailleurs avec des enfants, mais enfin bref, on a commencé à s'exercer à ce format de monolithe, donc qu'on présente à la fois sur l'EP là et en live, où c'est une improvisation où on travaille sur de l'ouverture de volume, de spectre, d'espace, de manière quasiment imperceptible. Et en fait, on l'a travaillé presque comme un exercice de méditation, ou de, à commencer par 5 minutes, puis 10 minutes, puis voir jusqu'où on peut aller. Là, sur l'EP, on fait des morceaux de 10 minutes, mais en concert, on essaie d'aller à 30-40 minutes sur ce même format qui s'étire, quoi.
Ah oui, c'est une question que j'avais aussi, ça. Mais alors, le titre Monolithe, à l'écoute de votre musique, on imagine bien ce dont tu parles, le fait des évolutions micro-perceptibles, on va dire. Mais j'ai lu également sur votre SoundCloud ou sur le Bandcamp, je ne sais plus, la mention électronique géologique. Et Monolithe aussi, ça fait clairement référence au monde minéral. Alors, pouvez-vous expliquer le lien entre votre musique et ce monde-là ?
Oui, bien sûr. En fait, justement, quand on faisait ce projet de transmission avec les enfants dans le cadre du dispositif création en cours des ateliers Médicis, on travaillait sur un spectacle avec des imaginaires plutôt liés au monde minéral, aux grottes. Et très vite, en fait, on a été séduit par les temporalités très très étirées de quand ça se réfléchir avec la formation des minéraux, en combien de temps ça se crée, l'activité tectonique des, enfin voilà, les activités telluriques, c'était des choses qui nous ont un peu inspiré, et notamment très naturellement avec le travail du temps étiré sur les synthétiseurs, ça a fait sens pour nous.
Ouais.
Le vertige que nous donne ce temps-là, quoi, qui est encore plus vertigineux que on travaille aussi sur la préhistoire avec le théâtre, mais que l'histoire de l'humanité, la formation minérale, c'est un truc, quand on entend les temporalités que ça met à se créer, notre cerveau bug, en fait, on comprend même pas tellement c'est lent. Et du coup, nous, dans notre manière de ralentir, on s'aligne avec un imaginaire qui a trait à ça, quoi.
Je pense qu'on aime à se dire qu'on tend à donner la sensation au public de la temporalité des pierres, quoi. Pouvez-vous devenir une pierre pendant
Bah justement, j'avais une question sur la façon dont se déroulent vos concerts. Donc, j'imaginais bien que les morceaux étaient plutôt longs, donc 35 minutes, 40 minutes. Et comment quelles sont les conditions optimales pour écouter votre musique ? Est-ce que, je sais pas, on peut écouter ça debout dans une salle de rock, ou est-ce qu'il faut être allongé dans des transats ? Comment vous imaginez-vous l'audition de votre musique ?
Là aussi, ça a été une recherche. Comme le disait Juliette, on a cherché à nos manières de se montrer sur scène, et on a voulu mettre en lumière le geste instrumental sur les machines. Et assez récemment, en fait, on s'est rendu compte que travailler la lenteur du geste, ça pouvait aussi matcher avec une forme de saturation des sens visuels. Et on a commencé à travailler récemment avec un collectif de lumière qui s'appelle les LAX. Donc plutôt, tout à l'heure tu parlais des conditions d'écoute. On aime les conditions d'écoute privilégiées, avec du silence qu'on vient bien sûr perturber en quelque sorte. Mais la saturation des sens à la fois visuels, auditifs...
Parce que les LAX, du coup, travaillent pas mal avec de la lumière club un peu extrême, genre du laser, des stroboscopes. Et c'est, on les a rencontrés sur les soirées Syrinx, en fait. Et ils ont une super écoute musicale, donc ils suivent notre improvisation en lumière, quoi. Après, on a ce format-là qui est le plus luxueux pour nous, mais qu'on n'arrive pas à avoir à chaque concert, parce que c'est quand même un petit défi technique à chaque fois. Mais on a quand même fait pas mal de... On a un format qui est un peu tout-terrain aussi, d'une certaine manière, où on a ce son et lumière qu'on fait avec l'AX, qui peut être assez impressionnant. Mais on a aussi joué dans des tout petits espaces, dans des caves. En tout cas, ce qu'on voulait à la base, c'est qu'on soit incarné, nous, de pas se cacher derrière une vidéo ou ouais, quoi que ce soit. Ouais. Donc, quand on joue dans des petits espaces ou dans des caves, on aime bien se mettre au sol, au milieu du public, pour qu'ils voient aussi ce qu'on fait avec nos mains. Et, et voilà. Après, bon, c'est quand même une musique qui appelle pas mal les gens à une écoute méditative, donc il y a beaucoup qui s'assoient.
À la relaxation, on va dire. Alors, est-ce que le 10 mai dernier, les organisateurs ont assuré, du coup? C'était Syrinx ici présent, je pense.
Ouais, c'était Syrinx et nous en collaboration. Ouais, c'était une très belle soirée. En fait, donc on avait l'axe avec nous. C'était au Cirque Électrique, qui est un endroit qu'on aime beaucoup et qui nous laisse vraiment faire ce qu'on veut. Et c'était la deuxième soirée qu'on organisait là-bas avec aussi des copains qui ont un collectif qui s'appelle Wolfgang et qui ont un groupe qui s'appelle Dan. Et où bah, ça rejoignait un peu ce que disait Syrinx avant. On s'est rendu compte que ça nous donnait l'espace de faire des soirées auxquelles on aimerait aller aussi.
Ah oui,
où à la fois on est capable de proposer du drone, mais aussi un DJ set très violent à la fin qui passe du métal au rap super énervé. Et où on aime bien aussi avoir des formes plus ambiantes avec de la chanson aussi. Donc voilà, c'est l'idée que défend Syrinx aussi, je pense, et pour qu'on s'est bien entendu, de musique électronique qui sortent du club et qui sont alternatives. Et, et voilà.
Hors antenne, vous parliez d'un concert au Jardin Villemain. J'aimerais bien que tu nous racontes comment a été perçu le concert par certains spectateurs.
Oui, bah, c'était une très belle après-midi, je ne sais plus, du mois d'octobre. Voilà, très ensoleillé. Donc le square à Villemain était plein à craquer. Et voilà, on vient avec Juliette jouer un monolithe de 40 minutes, qui est une musique quand même singulière. Et donc c'était assez hétérogène, l'écoute. C'est-à-dire, il y avait des enfants qui jouaient voilà, dans des jeux pour enfants, mais aussi des personnes qui venaient nous voir en disant qu'ils payaient leurs impôts et donc qu'ils ne devaient pas écouter ce genre de musique au parc, ou d'autres personnes qui venaient nous signaler que les enceintes étaient cassées, alors qu'évidemment non, c'était juste notre musique, quoi. Mais en essayant nous-mêmes d'incarner deux monolithes face comme ça
au chaos,
on a incarné jusqu'au bout comment dire, sans broncher et sans
ah oui, sans... Ah oui, impassible,
voilà.
Mais alors justement, cette anecdote qui est plutôt rigolote, mais moi me fait me poser la question: est-ce qu'il y a des sujets sociétaux ou environnementaux qui vous préoccupent et qui sous-tendent vos propositions créatives? Parce que le fait de s'étirer dans le temps, d'aller doucement, ça va peut-être à l'encontre de ce qu'on vit au quotidien.
Ouais, complètement. Alors on l'a pas vraiment théorisé pour l'instant, mais je crois qu'il y a quelque chose, le fait que ça soit de l'improvisation aussi à chaque fois. Tu me dis si je dis des bêtises, Paul, mais je pense qu'on a une certaine attention, nous, à prendre le temps, et qui est quelque chose auquel ce monde capitaliste nous autorise pas beaucoup, et aussi à se laisser surprendre. On travaille beaucoup dans la sérendipité, on aime bien ce mot, même s'il est un peu compliqué, mais en gros c'est vraiment l'idée de de rebondir sur les accidents tout le temps et de pas trop prévoir ce qui va se passer, quoi.
Eh oui.
Je sais pas si on a vraiment une démarche politique en fait dans Quid, mais bon, il fut un temps, on a lu aussi des choses comme les manifestes à l'accélérationnisme ou d'autres écrits sur l'accélération du temps dans nos sociétés, et ça nous a un peu inspiré un contre-pied. Mais de la même manière que les imaginaires du minéral, c'était aussi un contre-pied à tous les imaginaires du vivant qui ont été très présents à la fois dans les travaux universitaires moi j'ai par exemple été très inspiré par le livre d'Edouard Ocon, Comment pensent les forêts, et je sais pas, j'ai voulu aussi trouver un contre-pied à ces imaginaires.
Alors peut-être, je voulais vous demander, est-ce que vous avez d'autres projets séparément en dehors du duo? D'autres projets musicaux ou artistiques, tout simplement?
Oui, bien sûr. Du coup, moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis en train de finaliser une thèse sur la spatialisation du son. Donc une thèse de recherche création à l'EUR Artec pour Art Technologie Création, dans le cadre, enfin voilà, dans laquelle je compose des pièces électroacoustiques. Juliette, peut-être.
Moi, je continue en parallèle ma petite vie de compositrice. Du coup, je bosse sur divers projets de court-métrage en ce moment. On va continuer le travail avec la compagnie Les Temps Blancs aussi sur un cycle sur la préhistoire, où on est à la fois compositeur et aussi au plateau. Et un dernier truc qui a un rapport avec Quid aussi, que j'aime toujours bien rappeler, mais ce côté sur la lenteur qu'on a, je trouve que ça fonctionne assez bien dans le fait que ça peut séduire des gens qui sont pas du tout dans cette niche non plus du drone ou des musiques de synthétiseurs et tout ça. Il y a un effet un peu, je sais pas comment dire, psychoacoustique de cette musique qui fonctionne relativement bien sur des non-initiés. En fait, nous, on a fait des projets avec des enfants, avec des étudiants à la fac et tout ça. Et voilà, donc on a... Enfin, moi, j'ai toujours une petite idée aussi de tordre le truc et presque d'aller chercher sur les internets les gens qui vont rechercher presque de la musique de relaxation ou de méditation et d'arriver à leur faire écouter ça.
Ah, c'est bien vu, bien joué. Et alors, donc on a parlé de la sortie sur le label Syrinx de Monolith. Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire partie du label Syrinx? Qu'est-ce qui vous a plu dans leur aventure? Et est-ce que vous pouvez parler de la sortie de Monolith?
Bah, je pense que, en fait, quand on a, nous, cristallisé ce format Monolith, on était capable de le jouer, et du fait qu'on était tombé sur ce format, nous, un peu par hasard, sans être très érudits de ce milieu-là, on cherchait des espaces en région parisienne où pouvoir le jouer. Mmh. Et ça nous a paru très évident d'aller parler à Jeanne et à sa petite sœur Aline, aussi qu'on connaissait en tant que musicienne, qui fait partie du duo Ya.
Ah oui.
Et voilà, en fait, ça a été le premier lieu pour nous où rencontrer des gens qui faisaient des musiques aussi qui pouvaient être proches des nôtres. Donc, ils ont fait vivre le projet live aussi. C'est vraiment avec eux qu'on a fait nos premiers événements, qu'on a rencontré le collectif de Lumière. Donc, c'était complètement évident pour nous de travailler avec eux.
Eh ben, on va parler avec eux, on va revenir à parler avec eux, puisqu'on va écouter leur duo à Jeanne et Aurélien, qui s'appelle Axo, donc deuxième morceau. Et puis on en parle après. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Alors on vient d'écouter un second morceau du duo AXO, peut-être Aurélien et Jeanne, pouvez-vous nous parler de ces deux morceaux, celui qu'on a écouté en tout début d'émission et celui qu'on vient d'écouter à l'instant?
Oui, tout à fait. Alors, le premier morceau qu'on a écouté en début d'émission, c'était un titre qui s'appelle 3x4, hein, qui est sorti il y a 2 ans sur un label de Rouen qui s'appelle Tiger Class, qui est plutôt un label orienté justement musique de club, pour le coup, vraiment musique de club. Mais voilà, ce sont des gens que moi je connais plutôt parmi le milieu du DJing et qui étaient très sensibles à notre projet, qui a une dimension inscrite dans ces rythmiques électroniques plutôt dansantes. Mais au fait qu'on ramenait de la narration et quelque chose d'un petit peu dévié dedans. Et le deuxième morceau qu'on vient d'écouter, qui s'appelle Hotel Porte, qui est sorti à peu près à la même période sur un label parisien qui s'appelle Too Soon Tapes, qui eux travaillent plutôt sur des musiques, tout type de musique en marge. Ça peut aller vraiment de la pop chantée à de l'ambiance ou de l'électronique pure. Et je trouve que, à la fois par les labels, et par le contenu de ces deux morceaux, en fait, on retrouve un peu l'esthétique de notre projet, notamment Hotel Porte, en fait, où on a cherché à créer cette sorte de magma sonore au début, qui vient de la conjonction de nos deux instruments, donc Jeanne à la contrebasse et moi plutôt à l'électronique. On pourra en reparler. Mmh. Et en fait, de ce magma sort progressivement quelque chose qui est beaucoup plus identifiable, avec des mélodies, des rythmiques, mais quelque chose qui évolue beaucoup. On a cherché vraiment à... Voilà, on a toujours un sens de la mélodie, de quelque chose qui essaie d'accrocher l'oreille, mais en le faisant d'une manière qui n'est pas standard et qui un peu vient naturellement aussi de la conjonction de ces instruments qu'on n'entend pas forcément toujours ensemble.
Mmh. Alors, comment et quand est né votre duo, tout simplement? Comment? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous associer?
Alors, on avait envie de faire de la musique ensemble. Et puis, on a commencé en 2017. C'était un événement que j'avais vu qui était organisé par l'association du Master Médiation de la Musique à la Sorbonne, qui organisait une journée sur l'improvisation et faisait des appels à contribution en fait, pour venir improviser. C'était à main d'œuvre à Saint-Ouen. Et j'ai proposé qu'on intervienne parce que je me suis dit aussi que c'était assez original comme duo et qu'ils n'avaient rien dans leur programmation qui représentait ce genre de musique aussi. Et parce qu'à l'époque, voilà, on avait commencé à improviser un peu à deux comme ça, mais on n'avait jamais encore concrétisé quoi que ce soit. Donc on a décidé voilà, de se lancer dans ce duo de cette façon-là, et puis ça nous a plu. Et en fait, c'est un label qui s'appelle Nidalee Records, un label de Chicago, qui nous a proposé de sortir en EP en disant « Moi, j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup ce que vous faites, je ne sais plus ce qu'on lui avait envoyé. » On lui en avait juste parlé, parce qu'on n'avait rien à faire écouter.
Ouais, d'accord.
Et voilà, et il nous a dit « Si vous enregistrez un EP, je vous le sors. Ouais. » Donc c'est ce qu'on a fait. On a enregistré un EP dans la foulée. On a mis à peu près un an à le produire, à le finaliser, et puis c'est sorti en septembre 2018.
Ah, super.
C'était assez marrant parce que du coup, on n'avait pas forcément prévu à l'origine de composer des choses. C'était un projet d'improvisation.
C'est vrai.
Et puis voilà, parlant au label, ils nous ont dit « Mais c'est intéressant ce projet. » Eux, c'est un label qui est... ils ont une dimension musique de club et une dimension noise. Donc deux choses très opposées. Ah, oui. Et finalement, ils trouvaient les deux dans notre musique. Donc ils nous ont dit « Mais... pourquoi ne pas composer des morceaux plutôt que de faire simplement des improvisations ? » Et donc, on s'est lancé dedans et voilà.
Alors, c'était exactement la question suivante. Je voulais savoir quelle était la part de composition et d'improvisation dans AXO ?
Alors, on compose par l'improvisation. Quand on veut composer de nouveaux morceaux, on joue ensemble. Et puis après, on a l'habitude aussi de jouer ensemble. Donc, il y a des choses qui viennent très rapidement. Donc, quand on trouve quelque chose qui nous plaît, une mélodie, un morceau qui nous plaît, on se dit, bon, ça, on le garde, on le fixe. Et puis, et voilà. Mais après, bon, évidemment, dans ce qui est enregistré, après, on sait ce qu'on va jouer.
Ouais.
Quand on enregistre, on sait ce qu'on va jouer. Et par contre, en live, on sait aussi ce qu'on va jouer, mais il y a beaucoup plus de part à l'improvisation. Ouais. Après, fatalement, avec les instruments d'Aurélien, avec la machine qui tape sa rythmique, on est obligé de suivre de toute manière un certain cadre. On peut pas partir complètement.
C'est ça qui me tracassait, moi.
Ouais. Non, on suit quand même. Après, c'est vrai que moi, par exemple, j'ai plus de liberté et ça peut m'arriver de changer. Alors d'ailleurs, je joue jamais deux fois le même concert avec AXO, même avec la même tracklist, hein, ça n'a pas pareil.
Donc, en gros, il y a des trames, c'est ça.
Voilà, on a des trames en fait.
déjà exactement. Des grandes structures qui sont ouais. fixées, qu'on fixe nous dans nos improvisations
ouais.
et qu'on suit ensuite en concert. On se dit on va jouer plutôt tel morceau, puis tel morceau, puis tel morceau. Mais à l'intérieur des morceaux, les choses peuvent bouger. Il y a des grandes structures globales. Mais voilà, Jeanne, c'est vrai qu'elle est ancrée dans le milieu de l'improvisation. Et puis moi, mon matériel, en fait, fait que tout est joué live. Et il y a beaucoup de choses qui changent d'un concert à l'autre.
Ah oui.
C'est-à-dire que j'ai notamment j'ai un synthétiseur que j'utilise beaucoup et où je suis obligé d'un petit peu tout reprogrammer à chaque fois. Ce qui fait que d'un concert à l'autre, en réalité, les sons ne seront pas les mêmes.
Ah,
je n'utilise pas de boucle pour les mélodies. Donc quand je les joue, en fait, elles sont jouées en live et donc bah, les accidents du live se produisent. C'est pas toujours exactement.
Ouais, oui.
Je
oui,
peux choisir de me dire bon, bah, cette fois-ci, je vais rajouter des notes, je vais changer des choses. Cette mélodie, je vais la jouer là plutôt que là.
Ouais.
Ou alors, on va jouer dans un contexte. Par exemple, on a joué à Lille l'an dernier dans un contexte d'une salle de concert plutôt punk. Moi, j'ai adapté aussi ma proposition au synthé pour que ce soit quelque chose qui était un petit peu plus violent.
Ouais. Ouais.
Ou selon les contextes, on va faire quelque chose de plus méditatif. Donc c'est très adaptable.
Et surtout, l'intermorceau est toujours improvisé. C'est-à-dire qu'on on sait quel morceau. On va dire qu'on va jouer 5 morceaux, par exemple.
Okay, ouais.
Mais que finalement, le concert durera le double presque. Et qu'entre-temps, il y a les moments de transition. On s'arrête pas de jouer, en fait.
Ouais,
on joue pas un morceau et voilà. Donc
ouais,
on s'arrête pas de jouer.
Ouais, bah, bravo, voilà. Tout ça. Non,
voilà, c'est ça. On joue tout d'un bloc.
Ah, c'est super.
Et alors, c'est physique.
À l'écoute de votre musique, je m'étais demandé aussi, Jeanne, si tu utilisais justement des loopers.
Pas du tout, non.
Des boucles.
Non, non, non. Alors, après, dans les enregistrements, par moment, il y a des boucles enregistrées qu'on reprend parce que. Mais non, je joue tout. Je joue tout systématiquement. Je refais, voilà.
Et en plus généralement, as-tu des effets, non?
Non plus, non, très peu. Alors dernièrement, je me suis un peu mise à utiliser un peu une pédale d'effet en live, mais très récemment, mais pas toujours d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'effet.
Ouais. D'accord.
C'était une manière aussi de travailler ça, de dire on prend le son de la contrebasse, mais très brut en réalité, vraiment dans toute sa matérialité, dans toute sa puissance, qui en fait rejoint un peu le son des synthétiseurs. Et moi, je cherche à travailler là-dessus aussi. Parfois, on ne sait pas tout à fait ce qui est l'un.
Ça.
Ou l'autre. Et moi, de mon côté, l'électronique, justement, je n'utilise très peu les boucles. En fait, même sur les percussions, je vais activer les différentes pistes, les différents sons, etc. au fur et à mesure. Tu sais qu'il y a inévitablement de l'accident qui naît, il y a des choses qui naissent. Et en fait, dans les enregistrements, on cherche au maximum à garder cela. Donc,
oui,
on va retravailler certaines choses, mais le son de la contrebasse est presque brut.
Ouais.
Et moi, dans ce que je joue, là, ce qu'on entend sur les enregistrements, c'est jouer live. Et donc, il y a des choses qui n'étaient pas forcément prévues. Mais à la réécoute, on se dit, mais ça marche mieux comme ça, en fait.
Ouais.
Donc on garde l'accident et la création naît aussi de ça.
Ouais. Après, ce que je trouvais intéressant, c'est justement le contraste entre le son brut, comme tu dis, de la contrebasse et tes...
Oui, très organique. En plus, la contrebasse, c'est très... c'est charnel, même, presque.
Et alors, je voulais savoir si donc vous évoluez tous les deux dans des milieux pas forcément en interaction, on va dire, l'électro, le club pour Aurélien et la musique improvisée pour Jeanne. Et je voulais savoir si cette mixité, est-ce que ça vous ouvre des portes ou au contraire, est-ce que ça vous pose problème pour la diffusion, pour trouver des dates de concert? Est-ce que vous seriez...
c'est intéressant comme question.
Ouais.
C'est vrai, un peu des deux, en fait, j'ai envie de dire.
Oui.
Ça peut nous ouvrir certaines portes. Ça m'intègre, en fait, dans la scène électronique.
Ah
ouais. Alors qu'en réalité, je ne joue pas de musique électronique. Moi, je suis un peu ce petit chiot qui a été élevé par une maman chat et qui pense qu'il est un chat. C'est un peu ça. Moi, je me dis, oui, je suis complètement dans les musiques électroniques, mais je n'en joue pas, cependant.
Ah oui,
mais donc voilà, y a à la fois, ça peut nous ouvrir des portes. Et en même temps, effectivement, par moment, il y a des lieux où on n'est pas assez de ce milieu-là pour pouvoir s'y intégrer vraiment et programmer dans ces salles-là. Donc,
après, ça nous a quand même ouvert des portes parce que, par exemple, je pense à ce concert qu'on a fait à Lille dans une salle de concert qui était vraiment plutôt rock ou
la
punk, La Griffe. La Griffe.
J'avais un autre nom avant.
Qui a changé de nom récemment. Ouais. Donc c'est une sorte de cave, c'est vraiment l'esprit des caves rock lilloises. Donc, où en fait, c'est pas forcément un lieu qui est fait pour l'électronique à l'origine, mais finalement on y a joué. Et dans l'autre sens, on a pu jouer, c'était au mois de novembre, dans une soirée futile. Donc Futile, c'est un collectif de techno, house, queer. Et en fait, ils nous ont programmé pour faire l'ouverture d'une soirée qu'ils organisaient. Donc, c'était un 18h-6h du matin. Et nous, on jouait à 18h avec des personnes qui étaient allongées dans des... c'était, il y avait
Des poufs, voilà.
Avec de la toile de parachute, etc. Ils avaient vraiment travaillé le concept de ça commence comme ça et puis ça finit en fait en grosse soirée techno. Et voilà, on n'y aurait pas forcément joué sinon. Et là,
moi, contrebasse, non, c'est pas vraiment l'endroit où toute seule j'aurais été invitée, a priori. Je pense. Enfin, c'est normal.
Alors du coup, c'est quoi les plus ouverts? C'est la musique improvisée ou la techno?
Non, bon, ça...
Joker
bon, c'est plutôt une
Joker,
question de...
ouais.
Non, c'est plutôt une question de personne.
Ouais. Bah oui, évidemment, bien sûr. Oui. Alors, vous avez parlé des labels sur lesquels vos disques sont sortis, mais vous n'êtes pas sur votre propre label?
Alors, on est dans une compilation quand même, dans la première compilation.
Ah, d'accord.
Voilà. Ouais, on a une morceau.
Oui, c'est vrai.
Après, non, effectivement, mais c'est parce qu'on a préféré donner la parole aussi à d'autres personnes tout de suite, tout simplement pour pouvoir aussi faire connaître le label et circuler ces musiques-là. On s'est dit que si on commençait par nous, alors qu'on était déjà les fondateurs, ça, on allait rester en vase clos. Un jour, c'est l'idée quand même.
Oui, voilà, c'est pas exclu quoi.
Non, pas du tout.
C'est un projet.
C'est un projet. Ouais.
Et alors, Jeanne, tu as joué récemment aux Instants Chavirés et également au Dimanche de l'Impro de l'ami Jacques Pochat. Est-ce que ce sont des rencontres uniques, des one-shot comme on dit, ou as-tu des formations plus établies autres que Axo?
Alors, aux Instants Chavirés, j'ai joué avec Trinou, dont parlait Juliette aussi précédemment, un duo guitare et électrique contrebasse. Donc Trinou, elle a un projet solo dans lequel elle chante, ce qui est plutôt rock, on va dire. Et là, c'était le premier concert qu'on faisait ensemble. On a rejoué samedi aussi dernier. Je pense qu'on va en refaire. C'est le début de quelque chose.
Ah, d'accord. Ouais,
c'est le début de quelque chose. C'est pas une formation encore marquée. Après, au Dimanche de l'Impro... pareil, donc c'était la première fois qu'on jouait ensemble avec Jacques Pochat, Agnès Westermann, à voir s'il y aura des collaborations futures en tout cas.
Et alors, est-ce que tu as d'autres formations, c'est ça?
Oui, alors après, moi je fais aussi de la musique, je fais aussi du chant en chœur.
Oui.
Voilà, donc je fais aussi partie d'un ensemble vocal qui s'appelle Miscellanée, qui est un ensemble vocal qui est né de personnes qui faisaient partie de la musique de Léonie. La musique de Léonie, c'est une association qui est créée autour de la musique du compositeur Julien Joubert. Là, pour le coup, c'est du classique.
Ah,
ça n'a pas de rapport. Et, alors, pour moi, c'est cohérent parce que ce sont des choses que je pratique. Mais, mais en réalité, dans l'esthétique et même dans l'état d'esprit, il n'y a pas beaucoup de cohérence. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Et c'est vrai que je ne fais pas trop dialoguer ces deux univers-là.
Ah oui, j'allais te demander. Du chant dans Axo, peut-être?
Ah oui, alors ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi, développer le chant à la contrebasse, voire dans Axo. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé, j'ai pas eu l'élan de le faire. C'est-à-dire, j'ai pas trouvé la façon, j'ai pas envie de le forcer. J'ai envie que ça vienne à un moment où ça paraîtra évident. Pour l'instant, c'est pas venu. Mais je sens que ça me travaille.
Ouais.
Après, ça forme l'oreille aussi. Je pense que dans cette idée de rassembler des sources différentes et de voir comment elles interagissent.
Le chant choral, totalement. En plus, moi, du coup, c'est aussi des choses que j'utilise beaucoup dans mon jeu de manière générale à la contrebasse.
Bien sûr.
La question des harmonies, de la mélodie et tout ça, évidemment, ouais, ça c'est clair.
Ouais, ça s'entend, figure-toi. Et